France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Donald Trump exige des négociations immédiates pour acquérir le Groenland. Il l'a martelé tout à l'heure à Davos, mais pour la première fois, le président américain exclut le recours à la force militaire pour assouvir sa convoitise territoriale. Une première victoire pour les adversaires du traité avec le Mercosur. Le Parlement européen va saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le texte. Un vote de justesse qui renforce la détermination des opposants. L'Assemblée adopte en commission une proposition de loi sur le respect du consentement dans un couple, un texte qui vise surtout à mettre fin à la notion de devoir conjugal, encore invoquée devant les tribunaux. Le dossier de la rédaction consacré ce soir à une discipline artistique longtemps négligée, la tapisserie, un art textile mis en valeur par deux expositions en ce moment à Paris. Le monde entier, ou presque, avait les yeux rivés sur Davos cet après-midi. La star du jour, Donald Trump, qui a fait le spectacle devant les décideurs du Forum économique mondial. Le président américain a notamment ironisé sur les lunettes de soleil d'Emmanuel Macron, qui aurait joué les durs à cuire hier lors de son intervention à Davos. Mais surtout, il a répété qu'il voulait le Groenland pour la sécurité des États-Unis. Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Avec une inflexion toutefois dans cette rhétorique menaçante, Franck, Donald Trump exclut de recourir à la force pour s'emparer du territoire autonome danois.
Oui, alors il affirme qu'il pourrait recourir à la force, mais ne le fera pas en effet. Et pourtant, le président américain ne renonce pas à ses ambitions. Et c'est d'abord sans doute ce qu'il faut retenir. L'option militaire semblait de toute façon improbable. Donald Trump a développé un long argumentaire pour justifier son intérêt pour le Groenland. Il y voit des raisons historiques. En résumé, dit-il, les États-Unis ont libéré le Groenland après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont rendu bêtement à ses yeux le territoire au Danemark. Notre territoire, précise-t-il. Aujourd'hui, c'est un morceau de glace non développé dont il est très difficile d'extraire des minerais, mais c'est essentiel pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi les États-Unis ont besoin du Groenland et voilà pourquoi Trump veut négocier immédiatement avec le Danemark et les Européens pour obtenir le territoire. Et le président américain ajoute ceci. Nous voulons un morceau de glace pour la protection du monde et il refuse de nous le donner. Nous ne demandons rien d'autre. Nous aurions pu garder ce bout de terre, donc ils ont le choix. Vous pouvez dire oui et nous en serons très reconnaissants, ou vous pouvez dire non et nous nous en souviendrons. La menace d'une guerre commerciale s'il n'obtient pas satisfaction est à peine voilée. Donald Trump ne retire pas sa menace d'imposer des droits de douane aux Européens qui ne soutiennent pas sa démarche sur le Groenland. Plus 10%, on le rappelle, pour 8 pays, dont la France, à partir du 1er février. D'une manière générale, le président américain sermonne une fois de plus l'Europe, comme il l'avait fait par exemple devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Il estime que l'Europe va dans une mauvaise direction, que certains endroits ne sont plus reconnaissables, la faute notamment à l'immigration. Pas de recours à la force donc au Groenland, mais un discours très offensif du président américain.
Merci Franck Madvon, correspondant de France Culture à Washington. En tout cas, l'Europe semble désormais se réveiller face aux menaces du locataire de la Maison Blanche. Hier à Davos, Emmanuel Macron avait dénoncé la brutalité et les idées folles du président américain sans jamais le nommer. En Allemagne, c'est une véritable riposte qui est envisagée. Sébastien Baer, vous êtes notre correspondant à Berlin. Des voix s'élèvent outre-Rhin pour boycotter la Coupe du Monde de football prévue partiellement aux États-Unis en juin prochain.
De plus en plus de parlementaires, de la majorité comme de l'opposition, brandissent la menace d'un boycott pour, espèrent-ils, inciter enfin Donald Trump à revoir sa position. Les élus font ce constat. Oui, c'est vrai, l'économie européenne dépend largement des États-Unis, mais c'est l'Europe qui domine le football mondial. Une Coupe du Monde privée des meilleures nations, à commencer par l'Allemagne victorieuse 4 fois, n'aurait donc plus guère de sens. C'est le député conservateur Jürgen Hart, proche du chancelier Friedrich Merz, qui a lancé l'idée du boycott sur la radio Deutschlandfunk.
Comment pouvons-nous faire la fête dans un pays comme les États-Unis alors que le pays hôte est agressif vis-à-vis de l'un des États membres de l'Union européenne? À part les Jeux olympiques, il n'y a pas d'événement plus important que la Coupe du monde de football. Le président américain doit être conscient que s'il franchissait ce pas, rien ne serait plus comme avant dans nos relations transatlantiques, y compris les choses qui comptent pour lui, comme la Coupe du monde de football.
Un Allemand sur deux se dit favorable à un boycott si Donald Trump ne renonce pas à conquérir le Groenland et s'il déclenche une guerre commerciale contre l'Europe. Le gouvernement allemand, lui, reste prudent, soucieux de ne pas rompre le contact avec les États-Unis, son premier partenaire commercial. L'entourage de Friedrich Merz s'en remet à la Fédération allemande de football, qui devra donc décider si la Mannschaft sera présente à Houston le 14 juin pour jouer son premier match contre Curaçao.
Merci Sébastien Baer, correspondant à Berlin. C'est une première victoire pour les adversaires du traité avec le Mercosur, cet accord commercial entre l'Union européenne et plusieurs pays latino-américains. À 10 voix près, le Parlement européen a approuvé aujourd'hui la saisine de la Cour de justice de l'UE, qui devra donc se prononcer sur le texte. Les opposants espèrent que ce succès va dissuader la Commission et le Conseil européen d'appliquer même provisoirement l'accord. Le reportage de Fabien Cazot au Parlement européen à Strasbourg.
Le camp français savoure sa victoire. À droite, Céline Imar, elle-même agricultrice, se dit fière d'avoir porté aujourd'hui la voix de ses collègues après des mois de lobbying acharné dans les couloirs du Parlement européen.
On est allé chercher les voix une par une avec les dents dans un contexte de pression extrêmement forte sur ce vote. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le message politique est très clair. On ne peut pas sacrifier nos intérêts agricoles pour les seuls intérêts de notre industrie. L'agriculture n'est plus une variable d'ajustement.
C'est justement au nom de leur industrie que les Allemands sont au contraire favorables à l'accord commercial avec le Mercosur. Alors forcément, pour ce socialiste allemand, René Repazzi, ce recours déposé devant la Cour de justice de l'Union européenne est un revers.
Il y avait une grande pression de la lobby des agriculteurs, des intérêts nationaux français, polonais et d'autres nations. Le Mercosur, c'est le contre-modèle contre les États-Unis avec des partenaires. Et donc, en tant qu'Européen, c'est un affaiblissement pour l'Europe et c'est la raison pour laquelle je suis déçu.
Les partisans de l'accord se raccrochent à l'espoir d'un maintien de son application provisoire. Sans se prononcer à ce stade sur cette question, la Commission européenne dit regretter le vote du Parlement.
Le soulagement ce soir en Turquie. Le journaliste français Raphaël Boukandoura a été libéré. Il a pu rentrer chez lui à son domicile turc. Raphaël Boukandoura, qui travaille pour plusieurs médias français, avait été arrêté lundi à Istanbul alors qu'il couvrait une manifestation pro-kurde. Marine Le Pen a tenté de plaider la bonne foi au deuxième jour de son interrogatoire devant la cour d'appel de Paris. Au cœur de l'accusation dans ce deuxième procès, il y a l'argent du Parlement européen que le Front National aurait utilisé entre 2004 et 2016 pour payer des salariés du parti. Le FN, devenu depuis le RN, traversait alors des difficultés financières. Ce matin, les juges ont décortiqué les contrats des assistants parlementaires de Marine Le Pen alors qu'elle était députée européenne. On retrouve au Palais de justice de Paris Anne Fauquemberg. Bonsoir.
Bonsoir.
Les avocats généraux ont pris le relais cet après-midi en s'intéressant de très près au contrat de Thierry Légier, le garde du corps historique de Jean-Marie et Marine Le Pen. Thierry Légier, devenu ensuite assistant parlementaire de plusieurs députés FN, dont Marine Le Pen justement.
Quand Thierry Légier était garde du corps, il a été intégralement payé par le Parlement européen. Vous trouvez ça normal ? Interroge le premier avocat général. Il permettait à Jean-Marie Le Pen d'exercer son mandat de député européen, explique Marine Le Pen. La question, c'est plutôt, est-ce qu'on peut exercer un mandat sans protection en ce qui concerne Jean-Marie Le Pen ? La réponse est non. Ce n'est pas lié à la présidence du parti, insiste-t-elle. Et je maintiens que ça n'apparaissait pas contestable aux yeux du Parlement européen. La situation était connue. Mais cette fonction n'apparaissait pas sur le contrat, fait remarquer l'avocat général qui passe la main à un second avocat général. Il enchaîne avec d'autres réserves concernant Julien Audoul et reparle aussi de ce mail de l'eurodéputé Jean-Luc Schaffhauser qui parle d'emploi fictif. Comment expliquez-vous le fond de ce message, interroge le magistrat. Il a manifestement mal compris ce qui lui a été rapporté, répond Marine Le Pen. Il n'était pas présent lors de la réunion. Les questions se poursuivent. Marine Le Pen tente de rester combative mais fatigue. Plusieurs fois, elle se retrouve sans argument, répondant qu'elle ne se souvient pas des éléments dont on lui parle. « Je ne suis pas hypermnésique », justifie-t-elle. Elle exprime aussi régulièrement son principal argument. Des reproches, incontestablement, peuvent nous être faits, mais les problèmes liés à l'emploi des assistants parlementaires découlent d'un manque de contrôle. À l'époque, l'administration du Parlement européen était beaucoup plus coulante qu'aujourd'hui, réaffirme-t-elle.
Anne Fauquemberg en direct de la Cour d'appel de Paris avec Raymond Albouy pour les moyens techniques. Cette fois, il était bien présent devant les parlementaires, le représentant de Chiin qui avait décliné plusieurs convocations à l'Assemblée. Quentin Ruffa, le porte-parole du géant asiatique de l'ultra fast fashion, a été auditionné ce matin au Sénat. À ses côtés, Frédéric Merlin, le président du groupe SGM qui a ouvert au BHV à Paris la première boutique physique de Chiin. Chiin sous le feu des critiques après le scandale des poupées sexuelles en vente sur son site. La justice a pour l'instant rejeté la demande du gouvernement de suspendre ce site. Ce matin, les sénateurs ont surtout demandé à Quentin Ruffa des explications sur le modèle économique du géant asiatique, Annabelle Grelier.
Pendant toute l'audition, Quentin Ruffa, le porte-parole de Chiin en France, a réfuté toutes les critiques concernant la surproduction et le non-respect des réglementations.
Je souhaite être très clair sur un point. Chiin respecte toutes les lois, réglementations et obligations fiscales applicables dans tous les marchés où nous opérons.
Pour lui, Chiin est une marque sans usine, mais avec des fournisseurs régulièrement contrôlés, une marque inclusive qui ne pousse pas à la surconsommation. De quoi agacer la sénatrice LR Sylvie Valente-Lehir, la rapporteure de la future loi anti-fast fashion.
Je vous pose une question claire. Maintenez-vous aujourd'hui que Chiin ne relève pas de la fast fashion? Et si tel est le cas, comment justifiez-vous cette position sans vous retrancher derrière des éléments de langage, mais à partir d'indicateurs précis, vérifiables, comparables aux autres acteurs du secteur?
Madame la sénatrice, merci pour votre question. Je ne suis pas Donald Tang, donc je ne parlerai pas pour lui. Je ne suis que Quentin Ruffa, mais je vais vous donner mon avis. Nous sommes un modèle de production à la demande. Nous ne produisons que ce que nos clients veulent. Nous avons un taux d'invendu à un chiffre, contrairement au reste de l'industrie, qui est entre 20 et 40%. En évitant le risque d'invendu, j'enlève le risque de stock. Et c'est ce qui fait le succès de Chiin.
Ce que vous voulez me dire, c'est qu'en fait, rien ne vous fait peur. Vous êtes sûr de votre modèle.
Mon modèle économique aujourd'hui de production à la demande est un modèle qui est innovant, qui est novateur et qui a fait ses preuves.
À ses côtés, Frédéric Merlin, président du groupe SGM qui exploite le BHV, ne réfute pas le piètre succès de Chiin après 2 mois d'ouverture dans le grand magasin.
RTL disait 2000 euros de chiffre d'affaires au BHV. La réalité, c'est que c'est expérimental. Et donc en 2 mois, pour une première mondiale, on ne peut pas tout bien faire. On peut pas tout bien faire, c'est impossible. C'est impossible. Ce qui est formidable, et je le redis, c'est que Chiin, cette marque, attire un nombre de clients phénoménal. 5000 clients minimum jusqu'à 12000 clients les samedis.
Il ne fait pas marche arrière et annonce l'ouverture prochaine des rayons Chiin dans les BHV en région.
C'est une phrase rituelle dans la célébration d'un mariage en mairie. Les époux se doivent respect, fidélité, secours et assistance. Eh bien, il faudra peut-être bientôt ajouter à cette liste de devoirs le respect du consentement de l'autre. C'est en tout cas l'objectif d'une proposition de loi votée ce matin à l'unanimité des députés de la commission des lois à l'Assemblée. Le texte vise surtout à mettre fin à la notion de devoir conjugal qui présente les relations sexuelles entre époux comme une obligation matrimoniale. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Le devoir conjugal en tant que tel n'existe pas dans la loi, mais il est encore invoqué, Jeanne, dans les affaires de divorce pour faute en raison d'un flou juridique.
Oui, à l'article 215 du Code civil, il est écrit que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Sauf que cette expression est assez large et certains juges, appuyés par la jurisprudence, de la Cour de cassation considère que communauté de vie veut dire aussi communauté de lit. C'est donc au nom de cette lecture qu'en France, entre 7 à 11% des divorces pour faute sont encore prononcés au motif que l'un des époux se refuse sexuellement à l'autre. Sauf que l'année dernière, cette interprétation a valu à la France une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Il fallait donc lever toute ambiguïté pour le co-rapporteur de cette proposition de loi, le député Horizon Paul Christophe.
Le divorce pour faute suite à l'absence de relations reste relativement faible dans ce qui est invoqué, mais un, ce sera toujours un de trop. Et puis même si effectivement les juges ne tranchent pas en vertu donc de ces dispositions, on le retrouve quasiment dans toutes les plaidoiries, et que ça oblige parfois à avoir une enquête, à subir une enquête très désagréable de la part de l'épouse.
La proposition de loi introduit donc 2 choses dans le Code civil. D'abord, l'obligation pour chaque époux de respecter le consentement de l'autre, et puis la mention claire que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. Le texte doit maintenant être examiné par l'Assemblée la semaine prochaine.
Jeanne Serrin, merci. En 2025, les Français ont regardé en moyenne 4h14 de vidéos par jour, le plus plus souvent à la carte et non en direct, des chiffres issus du bilan annuel de Médiamétrie, l'organisme indépendant qui fait autorité pour mesurer l'audience des médias. Et pour bien évaluer nos nouvelles pratiques vidéo avec les plateformes et les télévisions connectées, Médiamétrie a imaginé une nouvelle mesure baptisée Watch. Bonsoir Estelle Caméraire.
Bonsoir.
En France, 60% des foyers sont abonnés à une offre payante au moins, type Netflix, Canal+, ou bien TF1+.
C'est une hausse de 8 points en seulement 4 ans. Médiamétrie a donc mis en place cette mesure pour, à terme, faire des comparaisons d'audience entre les différents acteurs et comprendre les besoins des Français, explique Isabelle Maurice du pôle Insight de Médiamétrie.
Ce qu'on note en 2025, c'est cette fameuse consommation à la carte, puisque les Français aujourd'hui ont pris l'habitude de choisir les programmes qu'ils vont regarder, que ce soit en télévision, en live, que ce soit sur une plateforme de bivote, donc proposée par des chaînes, ou proposée par la SVOD, donc par Netflix ou autre. Donc on a vraiment une augmentation de ce choix.
Choisir son programme et son moment de visionnage. Près de la moitié des contenus sont visionnés après leur diffusion. Profitant de ce besoin d'avoir le choix, les plateformes de chaînes télé comme France TV, Arte ou M6 ont doublé leur offre en un an avec 9000 titres fin 2025. Et le genre préféré des Français est...
Le genre fiction, ça représente 98% du top 50 des titres regardés en SVOD. C'est également une grande part de ce qu'on regarde en preview, donc avant la diffusion d'un programme, les trois quarts de la diffusion preview qui concerne un programme de fiction, mais aussi leur replay.
Et pour augmenter leurs chances d'être regardés, les acteurs développent de nouveaux partenariats. Les programmes de France TV et M6 sont déjà sur Prime Video et ceux de TF1 apparaîtront sur Netflix en juin prochain.
Explication signée Estelle Caméraire. Le dossier de ce journal s'intéresse ce soir à un pan de l'histoire de l'art qui est resté longtemps négligé, la tapisserie que l'on peut qualifier d'art textile. On en parle avec Chloé Leprince. Bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Après des années de relégation, la tapisserie est à l'honneur aujourd'hui à Paris avec deux expositions spectaculaires consacrées à deux artistes, Magdalena Abakanovic au musée Bourdelle et Sheila X au musée du Quai Branly. Mais pour bien comprendre ces expositions, Chloé, encore faut-il saisir ce que représentent ces deux artistes ?
Oui, parce que ce sont deux expositions qui mettent en évidence l'importance de deux artistes textiles femmes qu'on a mis du temps à valoriser dans le monde de l'art. Et à présent que la tapisserie, l'art textile au sens large sont beaucoup plus à la mode, eh bien l'œuvre de Magdalena Abakanovic, dont c'est la première rétrospective en France, comme celle de Sheila X, plus tardivement reconnue mais moins méconnue aujourd'hui, sont enfin reçues pour ce qu'elles représentent. Un moment majeur dans la reconnaissance de la tapisserie, non pas comme un art ornemental, comme une décoration plaisante, mais comme un art tout court. Et même comme de la sculpture, puisque ce à quoi ces deux expositions nous permettent d'accéder, c'est bien à la matérialité spatiale des œuvres des deux artistes, à leur souffle dans l'espace et en 3D. Ce sont deux femmes qui ont révolutionné l'art textile et dont le public peut mesurer l'amplitude aujourd'hui. La première, Abakanovic, est polonaise. Elle a fait ses études après la guerre à Varsovie. Elle est morte là-bas en 2017. La seconde, Hicks, est américaine, mais elle vit en France depuis pas loin de 50 ans.
Deux artistes reconnus un peu tard, Chloé, vous dites qu'elles ont en commun de nous montrer qu'on se méprend souvent sur ce qu'on entend par tapisserie.
Il faut plutôt y voir un laboratoire, au point qu'en 1962, quand elle avait participé à la Biennale de Lausanne à l'invitation de Jean Lursa, Abakanovic avait littéralement pulvérisé tous les codes de la tapisserie et fait scandale avec cette œuvre qu'elle avait intitulée « Composition de forme blanche » qui fait plus de 10 mètres carrés. Elle avait tourné le dos à la tradition du travail tapissier qui se voulait à l'époque avec un peintre décorateur qui signe une maquette et puis un cartonnier et un lissier qui exécutent l'intention de l'artiste. L'artiste polonaise, elle, avait tenu à faire elle-même, et en plus à faire comme la guidait la laine, à même l'œuvre en train de se faire, c'était révolutionnaire. Quant à Sheila X, son laboratoire, ça a d'abord consisté à se faire chambre d'écho, passeuse, révélatrice de savoir-faire ancestraux, ceux de ces communautés indiennes d'Amérique latine qu'elle a rencontrées, qu'elle a écoutées presque comme une anthropologue et dont elle s'est inspirée, dont elle a beaucoup appris. D'ailleurs, c'est Claude Lévi-Strauss, américaniste de tradition, qui avait signé le petit texte du carton d'invitation de sa toute première exposition à Paris en 1969. Lévi-Strauss soulignait alors combien Sheila X était parvenue comme personne a, disait-il, récupéré et assimilé la tradition péruvienne pour mieux la marier avec d'autres, de Perse ou d'Inde. Aujourd'hui encore, c'est Monique Lévi-Strauss, la femme de Claude, qui est devenue l'amie de Chilia X, qui reste sa meilleure spécialiste. Et si Monique Lévi-Strauss aura 100 ans dans quelques jours, l'exposition actuellement au musée du Quai Branly documente le dialogue entre les deux femmes. La biographie de Chilia X que Monique Lévi-Strauss avait rédigée à sa demande dans les années 70 pour faire valoir son savoir-faire auprès des architectes a été rééditée pour l'occasion et c'est un document historique.
Le retour en grâce de la tapisserie avec deux expositions à voir en ce moment à Paris. Dossier signé Chloé Le Prince. Un mot du temps demain, pluvieux sur le quart sud-est, des averses à l'ouest avec deux départements en vigilance orange pour les crues. Le Finistère et le Morbihan, ailleurs un ciel plus calme et parfois ensoleillé. Demain matin, il fera de moins 4 à 8 degrés du nord au sud. Les températures maximales l'après-midi iront de 3 à 14 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alice Vicrobec à la technique, Grégory Wallon.